Alors, nous sommes de retour. C'est l'émission Prendre la route avec Jean-François Gay. Avant la pause, on était en train de jaser. On a commencé à parler tranquillement de la Subaru WRX. Donc, on peut la qualifier de petite voiture sport. Alors, tu l'as essayé, Jean-François. Et bon, alors, qu'est-ce que ça donne?
Ben, au départ, faut comparer. Tu sais, il y a pas vraiment de comparatif. Pour la WRX, souvent, on va donner comme rival, le principal rival de cette voiture-là, on va penser à la Honda Civic SI avec un moteur de 205 chevaux. Ben, faut pas oublier que la WRX, là, c'est 268 chevaux. Mm. On va aussi inclure la Ford Focus RS, pas RS, mais plutôt ST, avec un moteur de 252 chevaux. On pense aussi à la Golf GTI, 210 chevaux. Donc, honnêtement, là, dans les faits, la WRX se classe vraiment dans une classe à part. Cela dit, moi, je vous dirais que les principales rivales de cette voiture-là, outre ces voitures plus généralistes, on pense à la Audi A4, on va penser aussi à la Mercedes classe C, traction intégrale. C'est sûr que la WRX est plus sportive et moins confortable que les voitures allemandes, mais vous allez avoir un vrai rouage intégral qui est extrêmement performant dans la neige, là, l'hiver s'en vient. Puis pour le prix, c'est quand même raisonnable, ça commence à 31 000 $. Et je dois vous dire que la suspension, le confort aussi, au niveau général, c'est plus confortable que la STI. La STI, ça, c'est une bête. Châssis qui a des suspensions qui sont beaucoup plus fermes, une direction aussi qui est plus ferme. Ça prend une main de velours dans un gant d'acier, mais je pense pas que ce soit la bonne expression. Je suis en train de faire
une
un péroniste.
Une main de velours dans un gant d'acier.
C'est ça? Non. Je suis un péroniste.
Mais je suis un peu honnête.
Je vais voulu faire des petites recherches avant de dire une telle expression. Mais cela dit, ce que je veux vous dire, c'est que ça prend une main très ferme faut garder les deux mains au volant de la STI, là. Alors que la WRX est beaucoup plus docile. Par contre, c'est une voiture qui est plus agréable avec la boîte manuelle. Étant donné le tempérament de la voiture, c'est une des rares voitures parce que, comme tu sais, les boîtes manuelles sont en... Le marché de la boîte manuelle est en perte de vitesse. Hein. C'est de moins en moins de voitures à boîte manuelle qui sont offertes. Il y a de moins en moins de ventes aussi.
Oui. C'est une main de fer dans un gant de velours.
C'est le contraire.
J'ai retrouvé l'expression. Alors, une main de fer dans un gant de velours.
Excellent.
Prends ça en note.
Bon, c'est noté. Par contre, c'est sûr que les boîtes manuelles, vous pouvez y aller avec une boîte CVT, c'est-à-dire une boîte automatique à variation continue. C'est pas vilain comme comportement. C'est sûr que cette boîte-là n'est pas faite avec la STI, mais avec la WRX, ça fait la besogne, comme on dit. Et par contre, moi, j'irais avec une boîte manuelle. Donc, les accélérations sont quand même intéressantes. On parle d'un 0 100 km/h en 5,5 secondes. C'est extrêmement vite. Les reprises sont aussi vives. Distances de freinage qui sont minimes. Là, on parle de 100 km/h à zéro, un départ arrêté, si on veut, complètement, là, en moins de 40 mètres. Là, c'est quand même excellent. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Mais aussi au niveau design, c'est une voiture aussi qui est moins tape à l'œil que la STI. Mm-hmm. La STI, vous avez un aileron à l'arrière, il y a certains déflecteurs. Ça fait plus voiture de rallye, ouais. Alors que la WRX est plus passe-partout.
Ouais. Peut-être un mot sur l'intérieur aussi, quand même. Je trouvais ça bien.
Oui, l'intérieur des Subaru, il fait une époque que c'était...
Les sièges semblent confortables aussi.
Sièges confortables, effectivement. Puis il fait une époque où le tableau de bord des Subaru, c'était coussi-coussa. Au début des années 80, c'était une référence.
Plutôt minimaliste.
Oui, c'était minimaliste. Puis vous aviez aussi des boutons, des commandes qui étaient minuscules. C'était difficile à faire fonctionner. L'écran aussi, le petit écran cathodique au centre, c'était petit. Puis on recule pas à très loin. On recule d'à peine 3 ans, 4 ans. Là, mm-hmm. C'était désuet comme tableau de bord. Mais là, depuis 2 ans, je vous dirais, moi, ils se sont mis à la tâche, là, les ingénieurs de chez Subaru. Puis les tableaux de bord, maintenant, sont parmi les plus appréciés de l'industrie. C'est encore l'an dernier, Il y a un magazine aux États-Unis qui est spécialisé là-dedans. Et puis, le tableau de bord de la Subaru Legacy, la Legacy, puis même, je vous dirais que la WRX s'est inspirée de la Legacy puis de l'Impreza, était dans les 10 plus beaux tableaux de bord sur le marché.
Bon. Parfait. Un mot maintenant sur la Chrysler Pacifica. Là, on parle d'une j'allais dire l'expression une vanne, mais c'est pas ça que je veux dire.
C'est une fourgonnette.
Une fourgonnette, c'est le mot français que je cherchais. Merci.
On est là pour s'aider.
On voilà. Passe notre temps à s'aider. Alors, c'est beau ça. C'est ça l'amour. Bon, voiturette qui est assez populaire quand même.
Ben, la Chrysler Pacifica, c'est une fourgonnette qui, tu te rappelleras, tout le monde se rappellera qu'il fait une époque, c'était un multisegment. T'avais le Chrysler Pacifica avec des portes à pivot à l'arrière. Maintenant, c'est devenu une fourgonnette. Il y a des gens qui ont pensé qu'elle était pour remplacer la Dodge Grand Caravan, mais pas du tout. La Dodge Grand Caravan est toujours en production. C'est la fourgonnette la moins dispendieuse, la plus abordable sur le marché, la Grand Caravan. Alors que la Pacifica se classe vraiment dans une catégorie supérieure, ne serait-ce au niveau de la finition intérieure du
luxe. Une classe à part.
Dans une classe à part. Et si on regarde, c'est plus une rivale à ce moment-là de la Sienna, de la Toyota Sienna, oui. Puis la Honda Odyssey. Je dis cela parce que le modèle de base, c'est un V6 3.6 litres avec le fameux moteur de 287 chevaux. C'est un V6 qui était employé à toutes les sauces chez Chrysler, chez Dodge et chez Jeep. Et par contre, moi, c'est la version que j'ai essayée, c'est la version hybride rechargeable. Vous avez à ce moment-là le V6 3.6 litres qui est jumelé à un moteur électrique avec une batterie au lithium de 16 kWh, Vous avez une autonomie annoncée de Chrysler de 53 km en mode entièrement électrique. Moi, je vous dirais, j'ai dépassé ça de façon je m'en allais dire exponentielle, pas du tout. J'ai fait un petit peu plus que 60 km avec une recharge. C'est quand même bien, ça, Jacques. Je pense à des familles, moi, qui, admettons, vivent dans une grande ville. Ils doivent transporter les enfants, aller faire l'épicerie, aller porter les enfants, je sais pas, à l'école, garderie, à l'aréna, au gymnase, des cours de ci, des cours de ça. Ben, à 60 km, la voiture est toujours branchée, ben je vous dirais, moi, vous pouvez toujours rouler pratiquement en mode électrique.
Ben oui.
Parce que ça, 60 km, c'est quand même intéressant. Par contre, encore une fois, c'est le prix. Parce que si on regarde une Chrysler Pacifica de base, qui est pas hybride, bon, mais les prix commencent à 31 000 $. Mais si on y va avec le modèle hybride rechargeable, là, le prix commence à 50 000 $.
Yoye.
C'est sûr qu'il y a une subvention de 8 000 $ encore une fois, dans ce cas-ci, parce que l'autonomie est quand même intéressante. Et par contre aussi, par rapport au modèle de base à 31 000, là, c'est sûr que là, il y a plus d'équipement à 50 000. Là. Il y a seulement 3 versions hybrides. Vous avez la Touring, vous avez la Limited, et vous avez un modèle intermédiaire entre les deux.
Ouais.
Mais du côté du modèle avec le moteur atmosphérique, le moteur conventionnel, là, je pense que vous avez 5 ou 6 versions. Ce qui fait en sorte que l'équipement varie beaucoup.
Peut-être un dernier mot, parce que je veux te faire participer à un petit quiz.
Oui. Je vous dirais, moi, que c'est très luxueux, mais par contre, au niveau de la conduite, le fait que ce soit une hybride rechargeable, c'est pas tout le monde qui va apprécier. Vous allez avoir une période d'acclimatation pour ça. Parce que, en plus, c'est une boîte CVT. Avec le moteur conventionnel, c'est une 9 vitesses. Là, c'est une boîte CVT. Au niveau du freinage, au niveau de la direction, au niveau du son aussi, quand vous marchez en mode électrique, il y a un petit scillement qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'on est dans une voiture concept.
Parfait. Alors, voilà pour la Chrysler Pacifica. Je sais que t'aimes ça, les petits quiz. Je viens de participer à un quiz. C'est un assureur britannique qui a constitué une carte du monde des clics automobiles.
OK. Je t'écoute.
Bon. Et selon toi, quelle est la marque la plus souvent googlée dans 57 pays, dont le Canada?
Oh là là. Ferrari.
Non.
Une grande marque ou une marque exotique?
Une grande marque.
Volkswagen.
Non, c'est Toyota.
Ah ben, Titi.
Dans le Canada. Mais il y a d'autres petits trucs intéressants. Au Japon, par exemple.
Oui.
Selon toi?
La marque la plus...
Googlée.
La plus googlée.
Oui. Voiture de luxe.
Mercedes.
Non, c'est BMW.
Bon.
En Corée du Sud aussi, c'est la BMW. En Italie, tu sais, selon toi?
En Italie? disons que c'est Fiat.
Non, Volkswagen.
j'ai zéro en cinq, là.
En Russie.
En Russie, Lada.
Non, on, ben, c'est-à-dire, Lada est dans, on la retrouve dans zéro pays.
Bon.
Ça fait pas rêver tellement. Hyundai. Hyundai, la voiture la plus googlée en Russie.
Ben, coudonc.
Au Burkina Faso.
ça va être Toyota.
Non, c'est Chrysler.
Hein?
Chrysler. Oui, on dit pour une raison inconnue. On n'en a aucune idée.
Ouais.
En Chine, maintenant?
En Chine?
Le plus grand nombre de recherches Google en Chine pour les voitures?
General Motors.
Non.
Chevrolet.
Non plus.
Buick.
Non. C'est la Tesla.
Ah, ouais.
Oui. Ben, même chose en Norvège. Alors, on voit que les gens, quand même...
Ils sont branchés, là-bas.
C'est quasiment presque étonnant en Chine, quand même. C'est pas les champions de l'environnement, on s'entend là-dessus. Mais peut-être que les mentalités changent. On en parlait tout à l'heure.
Est-ce que tu vas me blanchir, finalement? Parce que là,
oui,
j'ai eu aucune bonne réponse.
Non, mais quand même. Non, mais c'était pas facile. J'aurais pas répondu aussi, probablement pas, avec grand succès, parce que c'est pas évident. Alors, BMW intéresse le plus de gens sur Google dans 25 pays et Mercedes-Benz dans 23. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire... Et on s'est aperçu qu'en Afrique aussi, dans les pays très pauvres,
oui,
les gens s'intéressent surtout à Mercedes et à BMW. Ben, moi aussi, quand je vais sur Google, des fois, tu sais, quand t'as 10 minutes à perdre, ben tu vas puis ça me tente d'aller voir des voitures, ben c'est sûr que normalement je vais voir des voitures qui auxquelles je n'ai pas accès.
Des voitures qui te font rêver.
Qui me font rêver, exactement. Alors on s'est aperçu dans les pays pauvres, c'est exactement la même chose. Hein? C'est un beau sondage.
Ben tu vois, les salons automobiles, c'est un peu ça. C'est
ben, vrai, exactement.
Ça fait rêver. Il y a des gens qui vont là pour magasiner
exactement.
Aussi.
Exactement.
Mais souvent, c'est pour rêver.
Parfait. Alors, si vous avez des questions pour Jean-François, qui fait rêver depuis très longtemps, alors il sera avec nous après la pause pour répondre à vos questions. Alors, si ça vous intéresse, on vous donne dans quelques secondes les numéros de téléphone à composer. À tout de suite.